Chapitre 19. Leçon de tempérance et d'anatomie. Conséquences fatales de l'intempérance. C'est Dieu qui règle les plus petits comme les plus grands événements de ce monde. Notre principale affaire, pendant les quelques jours de notre rapide passage sur cette terre, d'épreuves et de souffrances, est donc de connaître la volonté de Dieu et de l'accomplir. Il n'y a de bonheur possible pour l'homme dans cette vie, comme dans la vie future, qu'à cette condition. Il n'y a pas un seul jour, j'oserais dire pas une seule heure, de ma longue carrière qui n'ait été pour moi la preuve de cette vérité. Mais c'est dans le sort qui décida que je serais le premier chapelain de l'hôpital de marine que j'ai surtout compris que le Seigneur dirige tous les événements de notre courte existence pour sa gloire et pour notre plus grand bien. Après que les autres vicaires se furent félicités d'avoir échappé au pesant fardeau que le sort venait de mettre sur mes épaules, ils me dirent combien ils sympathisaient à mon malheur. Tout en les remerciant de leur bon vouloir à mon égard, je leur dis franchement que je ne voyais pas cet événement tout à fait comme eux, que j'étais bien persuadé que Dieu avait conduit tout cela pour sa gloire et pour mon salut. Je ne me trompais pas. Au commencement de novembre 1834, une indisposition me fit garder la chambre pendant quelques jours, à la fin desquels, M. Gackmeyer, surintendant de l'hôpital, vint me dire que la flotte d'automne avait laissé un grand nombre de malades qui réclamaient jour et nuit le secours de mon ministère. Il ajouta, mais en confidence, que beaucoup de ces malades étaient des picotés et que le choléra morbus faisait encore d'affreux ravages parmi les pauvres matelots. Cette triste nouvelle fut pour moi comme un ordre du ciel de laisser ma chambre, d'oublier mon mal et d'aller au secours de mes braves marins, malgré la défense de mon médecin. Le docteur Douglas m'attendait à l'hôpital pour me dire la gravité de ma position en me confirmant ce que M. Gackmeyer m'avait annoncé, que la picote, c'est-à-dire la varicelle, et le choléra sévissaient avec la plus terrible rigueur, que plusieurs étaient déjà morts et que beaucoup d'autres étaient à la dernière extrémité. Ce docteur Douglas, qui était un des fondateurs de l'hôpital de marine, avait la réputation bien méritée d'être un des plus habiles chirurgiens du pays. Quoique protestant, il m'avait honoré de son amitié depuis le premier jour qu'il m'avait connu. Et je puis dire qu'il avait aussi gagné mon estime et ma confiance au plus haut degré. Le Canada a possédé peu d'hommes au cœur plus noble et plus droit que le docteur Douglas. Je le remerciais des renseignements qu'il m'avait donnés et je priais M. Gackmeyer, dans la chambre duquel nous nous trouvions, de vouloir bien me donner un verre de brandy que je bus à l'instant. « Que faites-vous là ? » me dit le docteur Douglas. « Vous le voyez, lui répondis-je. Je bois un verre de bon brandy. » « Permettez-moi de vous demander, » reprit le docteur, « pourquoi vous le buvez ?»« C'est comme préservatif contre les miasmes que je vais respirer dans les salles de l'hôpital, » répliquai-je. « Il me faut passer la journée à entendre les confessions des picotés et des colériques, me tenir l'oreille près de leur bouche, humer l'air pestilentiel de leur lit de mort. Est-ce que la prudence ne me fait pas un devoir de prendre quelques précautions dans de pareilles circonstances »« Est-il possible, » continua le docteur, « qu'un homme pour qui j'ai tant d'estime ignore à ce point les effets délétères de l'alcool sur le corps humain? Ce que vous venez de boire n'est autre chose qu'un affreux poison. Loin d'être plus à l'abri du danger depuis que vous l'avez bu, vous courez mille fois plus de risques qu'auparavant d'être atteint par la contagion. C'est ainsi que vous, pauvres protestants, lui répondis-je en riant, vous n'êtes tous que des fanatiques à l'égard de ces excellents breuvages. Mais vous ne me persuaderez jamais de partager vos idées exagérées sur ce sujet. Serait-ce donc pour l'usage des chiens que Dieu aurait créé le vin et le brandy? Non, ces excellentes choses sont faites pour l'homme qui sait s'en servir avec modération. « Mon cher père Chiniki, poursuivit le docteur, vous badinez. Je suis parfaitement sérieux lorsque je vous dis que sous le nom de brandy, vous avez bu un poison qui vous expose plus que jamais à succomber aux atteintes de l'épidémie qui fait ici tant de victimes depuis quelques jours. Si l'on s'empoisonnait à boire de bon vin et d'excellent brandy, lui répondis-je, il y a longtemps que vous seriez le seul médecin dans Québec et que tous les autres y seraient morts et enterrés, car je ne connais que vous, parmi tous les docteurs de la ville, qui ne fassiez pas usage de ces bonnes choses. Mais, quoique j'aie bien du plaisir à causer avec vous, mes matelots sont là qui m'attendent et m'appellent. Veuillez m'excuser si je vous quitte pour aller à eux. Laissez-moi vous dire encore un mot, répliqua le docteur, et j'aurai fini. Nous devons faire, demain matin, l'autopsie d'un marin qui vient de mourir subitement. « Auriez-vous quelques objections que je vous fasse voir dans le corps de cet homme le mal que vous vous êtes fait à vous-même en buvant ce brandy ?»« Je n'ai aucune objection à cela, lui dis-je. Il y a longtemps que je veux étudier l'anatomie. Demain donc, je prendrai ma première leçon. Elle ne peut m'être donnée par un maître plus aimable et plus savant que vous. » Je pressai la main du docteur et le quittai pour courir à mes chers malades qui m'occupèrent le reste de la journée et une partie de la nuit. Car pas moins de 50 voulurent faire des confessions générales et il me fallut donner les derniers sacrements à 25 qui étaient à l'agonie. Le lendemain matin, je me trouvai à la salle de dissection auprès du cadavre dont on devait faire l'autopsie. Le docteur Douglas me fit présent d'un puissant microscope pour m'aider à mieux étudier les ravages de l'alcool dans toutes les parties du corps humain. Pendant les 4 ans de mon vicariat à la cure de Saint-Roch de Québec, j'ai assisté à l'autopsie de près de 200 cadavres, soit à l'hôpital de Marine, soit dans les autres parties de la ville où le coroner et les autres chirurgiens de Québec avaient presque toujours la bonté de m'inviter. C'est ainsi que Dieu m'a donné une occasion de m'instruire dans cette branche si utile des connaissances humaines, comme peu de prêtres ou peu de ministres en ont jamais eu sur ce continent ou ailleurs. Mais c'est ici le moment de dire comment Dieu m'a forcé, presque malgré moi, à renoncer pour toujours à l'usage des boissons enivrantes. Il y avait parmi mes pénitentes une jeune dame qui appartenait à la classe la plus élevée de Québec. Elle avait une petite fille, âgée d'environ 1 an, d'une beauté singulière. Je ne crois pas qu'ici-bas, il soit possible de rien voir de plus charmant que cette jeune enfant. Aussi, sa mère en était-elle passionnée. Elle ne pouvait s'en séparer, pas même pour aller à l'église. À tout instant, elle la pressait sur son cœur, la couvrait de baisers. Malheureusement, cette jeune dame, comme beaucoup d'autres, même dans les plus hauts rangs de nos sociétés modernes, avait appris dans la maison de son père à aimer le vin. Et sa mère avait été, par son exemple, sa première maîtresse dans l'art de boire modérément. Après avoir, pendant quelque temps, bu modérément, elle s'habitua, comme cela n'arrive que trop souvent, par des degrés presque imperceptibles, à dépasser les bornes de la modération et des convenances. Puis, vers des ordonnances médicales qui lui firent comme une loi de boire des spiritueux plusieurs fois dans la journée, sous prétexte de soutenir ses forces et de conserver sa santé. Enfin, les penchants presque irrésistibles la firent bientôt descendre à des habitudes d'intempérance qui la faisaient rougir et qu'elle était la première à déplorer lorsqu'elle revenait à elle-même. J'étais le seul au monde, avec son époux, qui fusse initié à ce triste secret. Ce jeune homme était mon ami intime, et souvent, le visage baigné de larmes, il était venu me conjurer de lui aider dans les efforts qu'il faisait pour persuader sa compagne de renoncer entièrement à l'usage du vin. Je mis tout en œuvre pour lui faire voir l'abîme qu'elle creusait elle-même tous les jours sous ses pas. Jamais je ne lui en parlais, soit seul avec elle, soit devant son époux, qu'elle ne fondit en larmes et ne promit de suivre mes conseils. Mais hélas, les funestes ordonnances du médecin étaient toujours là, comme une barrière infranchissable à toute réforme. Ces quelques verres de vin étaient comme de l'huile répandue sur des tisons brûlants qui causent un incendie que rien ne peut éteindre. Un après-midi, que jamais je n'oublierai, un messager hors d'haleine vint me dire « vous conjure de venir à l'instant chez lui. Un affreux malheur vient de lui arriver. Son enfant a été tué et sa femme en est tellement affectée qu'elle veut sauter la vie. » Je m'élançai et je fus bientôt en face du plus épouvantable spectacle qui soit jamais vu. La jeune mère s'arrachait les cheveux, déchirait ses vêtements et se labourait la figure avec ses ongles en remplissant la maison de ses cris. « Pour l'amour de Dieu, donnez-moi un couteau pour que je me coupe la gorge. J'ai tué mon enfant, ma chère petite fille est morte. Ma Lucie, c'est ta mère, ta cruelle mère qui t'a ôté la vie. Mes mains sont teintes du sang de mon enfant. Oh, pourquoi veut-on m'empêcher de mourir ?» Le jeune époux et 2 autres messieurs, un docteur et le coroner, employaient tout ce qu'ils avaient de force pour tenir les mains de cette mère désespérée et l'empêcher de s'élancer sur la muraille, où elle voulait se briser le crâne. Complètement ivre, elle était tombée, son enfant dans les bras, avec tant de force sur le poil qu'il avait été renversé. Les tisons enflammés, répandus sur le plancher, avaient failli mettre le feu à la maison. Un des angles aigus du poil s'était enfoncé dans la tempe droite de l'enfant, avait brisé le crâne et déchiré la cervelle. Tout cela avait été l'œuvre d'un moment, mais ce moment était toute une éternité pour la malheureuse mère et son enfant. À peine était-elle relevée qu'elle se sentit comme foudroyée en voyant d'un coup d'œil toute l'étendue de son malheur. Comme il arrive presque toujours en de pareilles circonstances, son ivresse s'était entièrement dissipée. En voyant son enfant mort, son premier mouvement avait été de courir au buffet pour saisir un grand couteau de table bien effilé pour s'en couper la gorge. Heureusement que son mari était entré à l'instant, s'était élancé sur elle et lui avait ôté cette arme meurtrière après une terrible lutte. Après plus d'une heure d'efforts inutiles pour calmer la mère et rendre quelques services au père infortuné, je pensais à m'en retourner, mais ce fut impossible. « Au nom de Dieu, me dit le malheureux époux, restez avec nous pendant l'affreuse nuit qui nous attend. Mes malheurs sont assez grands sans qu'on nous déshonore à jamais par une publicité qu'il nous faut éviter à tout prix. Vous êtes le seul homme au monde, avec ces messieurs, sur qui je puisse compter pour m'aider dans cette heure de désastre et pour garder le secret de ma honte. Ne me refusez pas cette faveur. » Je restais avec l'espoir d'être de quelque secours, surtout à la pauvre mère. Mais tous mes efforts auprès d'elle furent inutiles. Elle demeura absolument sourde à tout ce que je pus lui dire. Elle répondait à mes paroles par des sanglots, des cris déchirants. À chaque instant, elle répétait « Mon enfant, ma Lucie, au moment même où tes lèvres me couvraient de baisers, je t'ai donné la mort. Pendant que tu pressais sur ton cœur ta mère, ce monstre indigne d'être jamais appelé mère était ivre, et c'est elle qui t'a donné le coup de mort. Oh, ma Lucie, mes mains cruelles sont rougies de ton sang. Mon mari, je t'en prie, au nom du ciel, ôte-moi la vie. Cher père Shiniki, je vous en conjure, par la charité que vous avez toujours eue pour moi, aidez-moi à mettre fin à mes douleurs, à mes remords, à ma vie criminelle. Donnez-moi un couteau, que je me perce le sein, que mon sang se mêle à celui de mon enfant, que je sois enseveli avec elle dans le même tombeau. » En vain, j'essayais de lui parler des miséricordes de Dieu pour les plus grands pécheurs. Ses oreilles semblaient entendre des voix terribles qui empêchaient mes paroles d'aller jusqu'à elle. Dans la nuit, elle eut une crise plus épouvantable que toutes les autres. Sa douleur devenait de la fureur. Quoique nous fussions quatre hommes pour la tenir, elle était plus forte que nous tous. Elle se débattait dans nos bras avec une force de géant. Elle finit par nous échapper et s'élança dans la chambre où était le cadavre de son enfant, qu'elle saisit et étreignit sur sa poitrine, comme si elle eût voulu le broyer. Puis, ayant arraché le linge blanc qui cachait l'effroyable plaie, elle y appliqua ses lèvres. Cette infortunée, les cheveux épars, la robe en lambeaux, le visage couvert de sang, les yeux rougis par les pleurs, pressant le petit cadavre sur son sein découvert, formait un spectacle d'horreur comme le monde n'en a jamais vu. Enfin, elle se tourna vers moi et me dit d'une voix solennelle « Père Shiniki, pourquoi n'ai-je pas suivi les charitables conseils que vous m'avez si souvent donnés? Combien de fois vous m'avez répété les paroles tombées du ciel? Le vin est trompeur, c'est un serpent qui pique, c'est un scorpion qui donne la mort. Exaucez en ce moment, je vous en conjure, la prière que la plus malheureuse des mères vous adresse. Allez d'un bout du Canada jusqu'à l'autre. Dites à tous les pères de famille de ne jamais mettre une goutte de ces boissons maudites sous les yeux de leurs enfants. Allez dire à toutes les mères de famille de n'en jamais mettre sur leurs lèvres une seule goutte. Allez dire à tous les Canadiens de n'y jamais toucher et de n'en jamais avoir dans leur maison. Dites à tout le Canada, dites à tout l'univers, comment sur le cadavre de mon enfant, j'ai à jamais maudit la boisson qui lui a ôté la vie et qui m'a perdu. » Après m'avoir adressé ces paroles émouvantes, elle s'arrêta quelques minutes comme pour se reposer. Puis, fixant de nouveau ses yeux sur moi, elle reprit. « Au nom du ciel, je vous en conjure, dites-moi si mon enfant peut me pardonner sa mort. Peut-elle prier Dieu d'avoir pitié de sa malheureuse mère? Peut-elle obtenir que la Sainte Vierge demande grâce pour moi? » Mais, avant que j'aie le temps de lui répondre, elle nous foudroya tous en criant. « Je suis perdu! J'ai tué mon enfant pendant que j'étais ivre !» À peine cet effroyable cri était-il sorti de son cœur qu'elle tombait morte sur le plancher. Des flots de sang lui sortaient par la bouche et inondaient son enfant qu'elle tenait encore pressé sur sa poitrine. Ce terrible drame resta caché. Le coroner rapporta que l'enfant ayant été tué par un accident imprévu, la mère en était morte de chagrin. Deux jours après, mon ministère m'obligeait à porter en terre les deux cadavres, enfermés dans le même cercueil. Mais ce que j'avais vu et entendu dans cette maison désolée ne pouvait être enseveli au fond d'un tombeau. J'avais besoin de solitude, de silence et surtout de prière après cette horrible tempête. Au retour du cimetière, il me fut aisé de dire que je n'étais pas bien, que j'avais besoin de quelques jours de repos. Je m'enfermais donc dans ma petite chambre pour être seul avec mon Dieu et réfléchir sur les grandes leçons que sa justice et sa miséricorde venaient de me donner. Avant ce malheureux penchant, cette femme était animée des sentiments d'honneur et de piété les plus élevés. Les dernières paroles qu'elle m'avait adressées n'étaient pas pour moi comme ces discours si communs que nous adressent les pécheurs qui tremblent à l'approche de la mort. Elles avaient une portée et une solennité qui en faisaient presque des oracles du ciel. Et je me sentais appelé à un combat à mort contre l'alcoolisme. Au milieu des ténèbres et du silence de cette nuit si mémorable pour moi, étais-je éveillé ou assoupi dans les illusions d'un songe ? Je n'en sais rien. Je vis tout à coup la figure si calme, si belle et si chère de ma mère. Elle était tout près de moi et tenait par la main la malheureuse jeune femme. Ma mère, oui, ma bien-aimée mère, me dit alors avec une force de sentiment, d'autorité et d'amour qui gravait chaque parole dans mon âme comme avec des lettres de feu, de larmes et de sang. « Va par tout le Canada dire à tous les pères de famille de ne jamais mettre une goutte de boisson enivrante sous les yeux de leurs enfants. Dis à toutes les mères de ne jamais boire une goutte de ces détestables boissons. Dis à tout le peuple du Canada de ne jamais toucher ni regarder la coupe empoisonnée des boissons enivrantes. Et toi, l'enfant si cher à mon cœur, abandonne aussi pour toujours l'usage de ces boissons qui sont maudites au ciel, sur la terre et en enfer. » Quand cette voix si puissante et si douce tout à la fois eut cessé de se faire entendre et que les yeux de mon âme eurent cessé de voir cet étrange et merveilleux spectacle, je me sentis singulièrement inquiet et troublé. Je me dis à moi-même, serait-il possible que les terribles choses que j'ai vues et entendues depuis quelques jours troublent ma raison et me conduisent à l'asile des fous ? J'ai passé les trois dernières nuits sans sommeil et je n'avais presque rien pu manger depuis 48 heures. Je craignais que la faiblesse de mon corps n'eût brisé l'équilibre de ma raison pour me reléguer à jamais parmi les aliénés. Je me jetai à genoux pour pleurer et prier, et bientôt je me sentis plus calme et plus fort. Élevant alors de nouveau ma pensée vers Dieu, je lui dis dans toute la simplicité de mon cœur, « Ô mon Dieu, faites-moi connaître votre sainte volonté et donnez-moi la grâce de l'accomplir. Voulez-vous que je redise à mon pays les épouvantables maux que la boisson fait au corps comme à l'âme des enfants ? Ou bien voulez-vous que la connaissance que vous m'avez donnée de ces choses reste à jamais ensevelie en moi, dans le tombeau ? » Plus vite que l'éclair, la réponse parvint à mon âme. « Va publier partout ce que tu as appris. » L'âme inondée de joie et le cœur saint d'une force qui n'était pas la mienne, j'élevai mes mains vers le ciel et je me criai tout haut. « Pour votre amour, ô Jésus, et pour l'amour de mon pays, je promets de ne plus jamais prendre une goutte de boisson enivrante. Je ferai tout en mon pouvoir pour que les prêtres et le peuple du Canada fassent le même sacrifice. » Il y a 40 ans que j'ai fait cette promesse et avec la grâce de Dieu, j'y ai été fidèle. On aurait peine à me croire aujourd'hui si je racontais l'émoi qui se produisit le jour suivant lorsque je refusais de prendre mon verre de vin et de bière à table. Quelques semaines plus tard, l'évêque me fit venir pour savoir si ce qu'il avait appris était vrai. Il m'administra une sévère réprimande et m'ordonna d'abandonner cette résolution, mais je restai ferme comme le roc. En vain essaya-t-il de me persuader que c'était une hérésie, déjà condamnée par l'Église, d'avoir des idées aussi étroites sur le vin et la bière. À tout ce qu'il me dit, je répondis que j'avais étudié la question dans le meilleur des livres, écrit par Dieu lui-même, à savoir le corps humain, et que j'avais vu de mes propres yeux que chaque goutte d'alcool qui entre dans l'organisme est un poison. Entre autres arguments, j'ouvris ma Bible et je lus au 23e chapitre des Proverbes, verset 31e, « Ne regardez point le vin lorsqu'il est vermeil. Lorsque sa couleur brille dans la coupe, il coule aisément, mais il mord à la fin comme le serpent et il pique comme un basilic. » Je m'aperçus que le bon évêque ne se rappelait pas d'avoir jamais lu ces mots, tellement il parut surpris en les entendant.